a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream.
My definition, my definition, my definition is this, my definition, my definition, my definition, my definition is this.
I have a dream.
Bonjour escapadiens, escapadiennes, heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année 2026. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous, avec un petit peu de froid, un petit peu de pluie, un petit peu de gel, n'est-ce pas? Alors c'est ce qui va être le thème de ce mois-ci. Alors vous savez que vous pouvez nous retrouver sur le 102.0, le 103.3 et le 104.1. Et puis vous pouvez retrouver nos émissions sur le 3W.radioescapades.org. Voilà, alors en cette période de fraîcheur, nous allons parler de la glaciologie. Et oui, l'histoire de la glaciologie, glaciologie de Pythéas à nos jours. Et puis ensuite, nous entamerons un autre thème qui est celui du glacier, de l'Apocalypse. Je vous dirai tout cela. Alors, commençons. Alors, avec Frédéric Rémy, spécialiste des zones polaires, directeur de recherche de CNRS, a publié en mars 2010 quelque chose d'intéressant et elle revient sur les étapes clés de la connaissance des glaces. Jusqu'à nos jours, depuis l'Antiquité grecque en effet, et jusqu'à nos jours, l'eau sous toutes ses formes, et notamment solide, a suscité des interrogations de la part de philosophes, physiciens, géographes, climatologues et plus tard des marins et des explorateurs. La glaciologie est un terme assez tardif. On commence à le trouver dans certains manuels dans les années 1860 et fait son entrée officielle dans le dictionnaire en 1890. La glaciologie est définie comme l'étude des glaciers dans le Larousse universel en 1922. Depuis, c'est l'étude de la glace naturelle sous toutes ses formes, neige, glace de glacier, de rivière, de lac, de mer, glace dans le sol. En revanche, le mot climat est beaucoup plus ancien. Les Grecs avaient compris que la Terre avait une certaine forme et que le climat dépendait du climat au sens grec du terme, c'est-à-dire l'inclinaison du soleil et de la latitude. Climat signifie initialement le lieu où l'on est. Ce n'est qu'à partir de Strabon que l'on emploie le mot climat dans tous les deux sens, en fait. Alors, du grec Pythéas et le romain Hannibal, l'expérience de la glace et de la neige. Les Grecs ne font pas de grandes découvertes en glaciologie, mais dès qu'ils comprennent que la Terre a une certaine forme, ils veulent vérifier que la durée du jour dépend de la latitude. Et Pythéas part plein nord et vérifie que la durée de la nuit diminue l'été. Nous sommes alors en moins 340 avant Jésus-Christ. Ils découvrent une mer gélatineuse qui empêche de marcher et de naviguer. La première description historique des glaces de mer. Revenu de son périple, personne ne le croit. Un peu plus tard, le grand militaire Hannibal traverse les Alpes avec ses armées et provoque une avalanche qui emporte la grande majorité de ses hommes et des éléphants. La légende dit que fort de ce tragique événement, Hannibal a appris à observer la stratification de la neige et à sonder la neige avant de passer. Ensuite, nous faisons un grand bond au XVIIe siècle, aux prémices de la glaciologie. Opérons un bond dans ce temps. En 1611, Johannes Klepper décrit le flocon de neige. Sa symétrie à six branches le passionne et passionne également les astronomes comme Jean-Dominique Cassini. Côté glace, le philosophe René réalise des expériences avec des anguilles. Il associe l'augmentation de la densité de l'eau transformée en glace aux anguilles qui, une fois séchées, gonflent de volume. Une des questions que les scientifiques se posent à cette époque est la suivante. Pourquoi la glace flotte-t-elle ? Galilée s'interroge. Il est en effet très rare qu'un solide flotte sur son liquide. La réponse à donner est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais il peut curieusement expliquer pourquoi la vie n'a pas été anéantie pendant des grandes périodes de glaciation. En effet, et si la glace coulait et gelait le fond des océans jusqu'en surface, le dégel, lui, par contre, permettait évidemment d'être beaucoup plus lent à fondre. Heureusement, car la glace restant en surface, en étant très bon isolant thermique, elle protège la vie aquatique. Sur ces belles paroles, avant de faire un grand bond dans le 18e et le 19e siècle, nous allons faire cette petite pause musicale en compagnie de Kim Chae-won et d'Alpan Lam avec Confession.
Now,
Voilà, vous étiez en compagnie d'une petite musique asiatique, tout droit tirée des K-dramas. Évidemment, je vous fais toujours part de ma petite passion, très cuculapraline toujours, de dramas asiatiques. Voilà, en compagnie donc de Kim Ji-won et d'Alpalin Confession. Alors, poursuivons notre petite aventure glaciaire qui continue à partir du 18e et 19e siècle. C'est la grande exploration des glaciers et de l'Antarctique, les grands aventuriers. Et c'est au 18e siècle qu'on observe une véritable émulation pour la glace, qu'elle soit de mer ou sur les glaciers. La peur de la montagne s'érode comme le Mont Blanc. On s'intéresse notamment aux curieuses moraines, d'immenses blocs de roches qui semblent surgir au milieu de nulle part dans un pré nu de toute pierre de préférence. Plusieurs hypothèses sont formulées, notamment l'hypothèse de l'explosion ou du déluge. Mais ces charpentiers, au 19e siècle, qui comprend que ce sont d'immenses glaciations qui ont poussé ces roches dans les vallées, très loin des glaciers restant à l'heure actuelle. Premier mystère résolu, reste à résoudre le suivant. Qu'est-ce qui peut expliquer cette immense glaciation? Très vite, deux hypothèses entrent en concurrence et sont toujours d'actualité. Celle de l'effet de serre et celle de l'orbite terrestre. Charpentier ne se contente pas de la théorie, il se décide à faire l'ascension du Mont Blanc pour mieux comprendre les mouvements des glaciers et de leur écoulement. Parmi tout le matériel qu'il emporte, on trouve un cyanomètre, outil de sa propre invention, qui lui permet de peindre la couleur du ciel telle qu'il le voit. Son fils est au pied du glacier avec lui, avec le même outil. En comparant leurs peintures, Charpentier et son fils démontrent pour la première fois l'impact de l'atmosphère sur la couleur du ciel. Le 19e siècle voit aussi éclore trois révolutions aux yeux des glaciologues. La parution de la théorie de Louis Agassiz sur les grandes glaciations, Dumont-Durville qui découvre l'Antarctique et le chanoine rendu qui emploie le terme de viscosité ainsi que celui de solide visqueux pour la glace qui s'écoule et qui se déforme. Enfin, dès 1824, Joseph Fourier émet l'hypothèse que les émissions de gaz à effet de serre émises par l'homme sont propres à modifier les conditions climatiques. Alors comment expliquer que l'eau de mer gèle moins vite que l'eau douce? Quand l'eau douce se refroidit, elle gonfle car sa densité est moins forte. L'eau pure en contact avec l'atmosphère se refroidit de plus en plus vite. En revanche, quand l'eau salée commence à se refroidir, elle gagne en densité et elle plonge. Il faut donc attendre que les premiers mètres soient bien refroidis pour que l'eau salée gèle. C'est une des raisons de la fragilité des glaces de mer. Elles mettent 6 mois à se former, mais 3 mois à fondre. Voilà, donc il faut de longues périodes froides pour qu'elles se conservent, n'est-ce pas? Alors, pourquoi observe-t-on une fonte des glaces de l'Arctique, mais pas de l'Antarctique? Le pôle Nord est un océan gelé. Mais le pôle Sud, lui, est un continent gelé. Voilà la différence. Les glaces de l'Arctique se réchauffent par le dessous, réchauffement de l'eau, et par le dessus, réchauffement de l'atmosphère. On observe une perte de glace d'année en année. Entre les années 85 et maintenant, 2 millions de kilomètres carrés de glace ont fondu, soit 4 fois la France. Rien que cela. Le pôle Sud est pour sa part beaucoup mieux isolé. On observe une fonte seulement des pointes de l'Antarctique. Concernant le réchauffement climatique, Frédéric Rémy ne raisonne pas en termes d'espoir ou d'angoisse. Il n'y a pas d'évolution sans révolution. Il est possible que cela se passe mal, mais heureusement, nous commençons à avoir conscience de baisser nos émissions de gaz à effet de serre. La GIEC ne veut pas dépasser 2 degrés d'augmentation de manière à ne pas changer le régime climatique. Il est vrai qu'au-delà, cela poserait de gros problèmes. Alors, il faut faire partie des chercheurs pour qui il est plus important de s'adresser au public qu'aux politiques. Si vous vous demandez encore à quoi peut bien servir la glaciologie, vous avez donc des propos de Frédéric Rémy qui répond sans détour Plus d'un milliard d'hommes dépendent des ressources en eau des glaciers. Et les glaces de l'Arctique jouent un rôle crucial dans l'avenir de notre planète. Les glaces ont un rôle double. Préserver une certaine harmonie sur la planète Terre tout en étant les boîtes noires de la Terre. La glaciologie permet de mieux comprendre les mécanismes de notre Terre pour mieux la préserver. Alors je vous conseille une très bonne lecture de Frédéric Rémy, qui est spécialiste dans les zones polaires et dans la cryosphère et qui travaille au CNRS à l'Observatoire du Midi-Pyrénées. Alors elle a sorti plusieurs ouvrages, notamment « Histoire de la glaciologie » en 2007 aux éditions Vuibert, ainsi que vous avez aussi « Histoire des pôles, mythes et réalités polaires 17e et 18e siècle » dans l'édition des Jonquières en 2010. Voilà pour la petite info sur la glaciation. Alors nous allons faire à nouveau une petite pause musicale avec « Goodbye My Love » de Ellie.
by my love.
Ellie, voilà, Goodbye My Love. Alors ça, c'est une musique que vous pouvez entendre en boucle sur TikTok pour les deux plus beaux amoureux chinois qui sont Yulong et Mei Mei. Voilà, un très bel amour construit sur les K-dramas, toujours. Voilà, alors poursuivons quelque chose de plus sérieux, hein, n'est-ce pas, et découvrons ensemble cette glaciologie. Alors cette glaciologie, elle est très étudiée à travers le monde, à travers toute la planète, et je continuerai sûrement dans l'année de vous en parler à travers divers sites de glaciers et de glaciations, que ce soit terrestre, mer, lac, montagne. Mais là, nous allons entamer un thème assez peut-être de notre temps, qui est qu'est-ce qu'un glacier de l'Apocalypse et pourquoi est-ce important ? Alors, ce glacier surnommé le glacier de l'Apocalypse, c'est le glacier Thwaites en Antarctique occidentale, est devenu un symbole de l'accélération de la crise climatique et un point central de l'inquiétude croissante de la communauté scientifique. S'étendant sur environ 192 000 km², il est l'un des glaciers les plus vastes et les plus instables de la planète. Plus inquiétant encore est l'état de sa plateforme de glace qui semble dangereusement proche de l'effondrement. Si ce glacier Thwaites venait à s'effondrer, cela ne contribuerait pas seulement de manière significative à l'élévation du niveau de la mer, mais pourrait également déstabiliser la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale dans son ensemble, déclenchant une réaction en chaîne de fonte des glaces dans toute la région. Dans cet article, nous allons donc détailler ce qu'est le glacier de l'Apocalypse, pourquoi les scientifiques le surveillent d'aussi près et ce qui peut être fait pour ralentir son recul. Alors, le glacier Thwaites, nommé d'après un géologue qui s'appelait Frédéric Télé, Thwaites, qui a surnommé ce glacier l'Apocalypse. Comme de nombreux glaciers à travers le monde, ce glacier recule. Mais le rythme et l'ampleur de cette fonte sont particulièrement alarmants. Chaque année, il perd environ 50 milliards de tonnes de glace de plus en plus, qui ne gagne pas que les chutes de neige. Et ce rythme s'accélère, la perte totale de glace ayant doublé au cours des 30 dernières années seulement. Alors, à savoir que le dessous de ce glacier, rappelez-vous, ça remonte à un petit moment, nous étions d'ailleurs dans l'ancien studio, je vous avais parlé de ce cycle époustouflant qui était réglé comme une horloge entre le sable du Sahara qui allait rejoindre l'Amazonie, mais il y avait aussi ce rythme du dessous du glacier de l'Antarctique qui nourrissait ainsi tout le canal et le couloir du Gulf Stream qui remonte l'Atlantique et qui remonte aussi et qui est réchauffé ensuite par les mers indiennes et pacifiques. Alors, et qui régulait évidemment toute la vie aquatique, évidemment, de tous ces océans. Alors, si ce glacier de l'Apocalypse commence à s'effondrer, c'est aussi un effondrement de toute la vie des océans et des mers. Voici son importance. Alors, comme de nombreux glaciers, évidemment, si actuellement le niveau des mers augmente d'environ 3,4 mm par an, le glacier Thwaites est lui, à lui seul, responsable d'environ 4% de cette hausse. Si ce glacier venait à s'effondrer complètement, il pourrait déstabiliser l'ensemble de la calotte glaciaire et faire monter le niveau de mer jusqu'à 65 cm, soit suffisamment pour inonder des villes côtières et déplacer quelques millions de personnes. Mais l'inquiétude ne s'arrête pas là. Le glacier agit comme une sorte de barrage naturel, retenant les glaciers voisins tels que le Pin Island et le Haines. S'il venait à s'effondrer, il pourrait déstabiliser ces masses de glace et déclencher une réaction en chaîne de recul à travers les calottes glaciaires de l'Antarctique occidentale. Dans le pire des cas, cet effondrement plus important pourrait libérer suffisamment de glace pour faire monter le niveau des mers de 1,50 m à terme. Là, ça commence à faire beaucoup, n'est-ce pas ? La calotte glaciaire présente déjà des signes d'instabilité extrême. Elle subit actuellement les changements les plus spectaculaires de tout le système glace-océan d'Antarctique, avec l'un des taux de recul les plus rapides et les plateformes de glace les plus instables du continent. Alors, ils vont peut-être s'arrêter à vouloir nous incliner la planète un peu trop exposée au soleil. Ce serait sympa qu'ils arrêtent leur petite expérience. Peut-être comme ça, la glace restera. C'est pourquoi elle est devenue un sujet d'intérêt majeur pour les climatologues et les médias. Alors, le glacier Tweet est actuellement soutenu par une plateforme de glace flottante. La plateforme de glace qui s'étend dans la mer d'Amundsen, cette plateforme de glace joue un rôle crucial. Elle agit comme un barrage naturel, comme je vous l'ai précisé, mais cette barrière protectrice s'affaiblit. Et la hausse des températures océaniques fait fondre la glace par le dessous. Ainsi, elle amincit la plateforme, la rendant de plus en plus instable. Alors, qu'ont observé les scientifiques ? Les scientifiques surveillent ce glacier depuis plusieurs décennies. Le glacier s'écroule plus rapidement et sa ligne d'ancrage recule. L'augmentation du débit glaciaire, l'écoulement glaciaire, désigne le mouvement naturel de la glace depuis les hautes altitudes vers l'océan, sous l'effet de la gravité. Le glacier est un glacier émissaire, c'est-à-dire qu'il déverse directement la glace de l'intérieur de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale dans la mer. Il abrite également une partie de la glace continentale qui s'écoule le plus rapidement en Antarctique, ce qui en fait un point d'intérêt crucial pour les scientifiques qui étudient la fonte des glaces et l'élévation des niveaux. Ce flux est à l'origine de la formation des plateformes de glace flottantes. La plateforme s'étend à environ 120 km, culminant à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer et plongeant à 200 mètres sous la surface. Et une caractéristique remarquable de ce glacier est sa langue glaciaire, une longue et étroite bande de glace qui s'avance du glacier dans la mer, formée par l'écoulement rapide du glacier dans l'océan. Mais lorsque le glacier avance trop vite, la plateforme de glace peine à suivre le rythme. La glace se détache plus vite qu'elle se renouvelle, ce qui fragilise toute la structure. C'est un problème majeur car la plateforme de glace joue le rôle d'un étaimant contribuant à stabiliser le glacier et à ralentir son affaissement. Ligne de mise à la terre en retrait. La ligne d'échouage marque le point où le glacier se détache de la terre ferme et commence à flotter sur l'océan. Lorsque cette ligne recule vers l'intérieur des terres, elle expose davantage la face inférieure du glacier à l'eau chaude de l'océan, créant une cavité sous la banquise et réduisant ainsi son soutien structurel. Ces dernières années, les scientifiques ont observé le recul rapide de la ligne d'ancrage de ce glacier. Donc, l'eau océanique, relativement chaude, s'infiltre désormais dans ces interstices entre le substratum rocheux et le glacier, accélérant la fonte par le dessous. Une étude menée par la NASA en 2021 a révélé l'ampleur de cette cavité sous-marine, haute de près de 300 mètres et couvrant une superficie équivalente aux deux tiers de celle de Manhattan. Elle contenait autrefois environ 14 milliards de tonnes de glace. Partie. Le plus alarmant, c'est sans doute la rapidité de sa formation. En seulement 3 ans, cette fonte rapide soulève de sérieuses inquiétudes quant à un possible détachement du glacier et de son socle rocheux. Alors, après ces petits frissons d'angoisse, y aurait-il un petit espoir ? Je vous dirai tout cela après cette petite pause en compagnie de Asa avec Jailer.
So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I've got to get... Our uniforms, you wear uniforms too. No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains. you're in change too. Our uniforms and you wear uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but yourself will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer?
Simple chords.
A.
You know?
Jailer en compagnie de Hazard, cette jolie voix. Alors, continuons notre petit périple glacier, qui est peut-être répétitif dans sa fonte et les causes, mais qui sont importantes de toujours mettre à jour et toujours répéter pour tous les humains qui se sentent concernés à la vie terrestre, n'est-ce pas? Alors, des recherches récentes ont permis de mieux comprendre les forces qui façonnent le glacier. Bien que le glacier Thwaites continue de reculer, une découverte surprenante apporte un petit certain réconfort. La fonte à sa base est plus lente que prévu quand même. Cela laisse penser que dans certaines zones, le glacier pourrait se montrer plus résistant au réchauffement climatique que les scientifiques ne le craignaient initialement. Cependant, cet optimisme prudent est contrebalancé par d'autres découvertes qui dressent un tableau bien plus inquiétant, n'est-ce pas? Donc, des études du terrain sous-marin près de Thwaites ont mis à jour un réseau de formation du fond marin en terrasse, rassemblant des escaliers sous-marins ainsi que de nombreuses fissures et crevasses au sein du glacier. La fonte de ces zones structurellement fragiles s'accélère considérablement. Ce phénomène est particulièrement préoccupant car il permet à l'eau plus chaude de pénétrer plus profondément. Alors pourquoi le glacier de l'Apocalypse fond-il ? La détérioration rapide du glacier est due au changement climatique d'origine humaine depuis la révolution industrielle, la combustion à grande échelle des combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole, ainsi de suite, le dioxyde de carbone et d'autres. Ce gaz retient la chaleur, réchauffant ainsi la planète, la majeure partie de cette chaleur excédentaire a été absorbé par les océans, tandis que les températures de l'air ont également augmenté, notamment au pôle. L'augmentation de la température des océans, de l'air plus chaud, de l'amplification polaire, changement des régimes du vent, boucle de rétroaction et affaiblissement interne, ces forces combinées font du glacier l'un des plus menacés au monde. Bien que les facteurs en cause puissent paraître lointains ou abstraits, leur origine réside dans l'activité humaine et leurs conséquences pourraient remodeler les littoraux du monde entier. Quel est l'impact ? Eh bien, son effondrement n'entraînerait que seulement une montée de niveau des mers, comme je vous l'ai précisé, mais également des répercussions majeures sur le climat mondial, les écosystèmes et les communautés humaines. Voici quelques-unes de ses conséquences les plus graves. Donc, en plus de cette élévation des mers, déstabilisation des glaciers, circulation océanique et écosystèmes marins, les conditions météorologiques, gaz à effet de serre et pertes scientifiques. Quelles sont ses perspectives ? Eh bien, et ces perspectives qui reculent rapidement, les scientifiques sont inquiets. Donc, les recherches indiquent que cette plateforme ne peut être qu'apocalyptique si elle continue de fondre. Tant que nous continuerons à brûler ces combustibles, eh bien, paraît-il que nous ferons fondre de plus en plus cette glace. Alors, par moments, il faut des fois se poser et peut-être trouver des solutions. C'est pourquoi la planification de l'adaptation et la modélisation scientifique sont tout aussi importantes que l'atténuation. Pourquoi la recherche est toujours importante ? Ben, les études en cours nous aident à prévoir l'avenir et à s'y préparer. Les glaciers comme Tweed sont des systèmes complexes et les scientifiques ont besoin de données précises pour prévoir son évolution. Les projets de recherche tels que la collaboration internationale sur ce glacier menée au Royaume-Uni, aux États-Unis, ont permis ainsi de suite à utiliser une imagerie satellitaire, le radar et la robotique sous-glaciaire pour cartographier sa structure et suivre son évolution en temps réel. Ce programme de recherche conjoint vise à mieux comprendre les processus qui influent sur la stabilité des calottes glaciaires et à prédire avec plus de certitude la contribution future du glacier à l'élévation des niveaux de mer. En étudiant le comportement actuel du glacier et de ses réactions passées aux changements environnementaux, les scientifiques peuvent élaborer les modèles plus précis pour éclairer la planification climatique mondiale. Ces modèles nous aident à anticiper la rapidité avec laquelle le niveau de la mer pourrait monter, à comprendre ses impacts régionaux et mondiaux, et à élaborer des stratégies de résilience pour s'adapter aux changements futurs. Donc le glacier Tweed est actuellement le glacier le plus instable de l'Antarctique. Son effondrement aurait un impact dramatique sur le niveau des mers mondiales. Donc, nous allons lui faire une petite prière de résiliation et nous allons espérer que l'humanité va permettre à le conserver le plus longtemps possible. Et sur ces belles paroles, je vais vous quitter et vous présenter tous mes meilleurs vœux. Vous espérez surtout une très bonne santé. Et sur ces belles paroles, je vais vous quitter avec toujours Aza avec Be My Man.
My mama used to tell me, girl, he ain't that cool. To see a man you love and start to act a fool. Tell me what's a girl love supposed to do. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day?